Elles sont l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Alexis Fricker.
Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Appelez-nous, rejoignez-nous pour commenter l'actualité dans une demi-heure comme tous les jours. Ce sera le débat et RFI aujourd'hui vous donne la parole pour parler du Burundi, de la volonté du Burundi de quitter la Cour pénale internationale. Le Parlement burundais a déjà largement voté en faveur d'un départ de la CPI et il faut encore que ce départ soit totalement officiel, c'est-à-dire qu'il soit acté par le président de Nkurunziza et ensuite il faut que la Cour pénale internationale l'enregistre. La procédure est encore longue et malgré tout, un tel départ de la CPI serait une première dans l'histoire de cette cour qui existe depuis 2002. Sachez que le Burundi est dans le viseur de l'ONU avec un rapport qui est sorti le 20 septembre dernier qui dénonce notamment des dangers de génocide et des probabilités de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Le Burundi qui est aussi sous le coup d'un examen préliminaire de la CPI pour meurtre, torture, viol, disparition forcée après les violences, vous le savez, qui avaient éclaté en avril 2015 après l'annonce du président Nkurunziza d'une candidature à un troisième mandat. Alors, la CPI ne se concentre-t-elle que sur l'Afrique aujourd'hui ? Mène-t-elle une justice discriminatoire, une justice deux poids deux mesures, comme on a pu l'entendre ? Ou bien est-elle ce garde-fou indispensable contre les pires atrocités ? Cette cour est-elle légitime ? Eh bien, tout cela, on en parle dans 30 minutes. Vous êtes déjà nombreux à réagir au standard de l'émission ici à Paris. 33 9 693 693 70. Et puis bien sûr, vous réagissez aussi sur la page Facebook d'Appel sur l'actualité. J'irai quelques commentaires tout à l'heure. Mais d'abord, comme tous les matins à cette heure-ci, vos questions pour mieux comprendre et décrypter l'actualité avec tout d'abord une question sur ces nouvelles violences en Centrafrique qui ont fait plusieurs morts ce week-end dans la région de Bambari, 12 personnes tuées. Et puis la semaine dernière à Kagabandoro, 37 morts. Bonjour Ghislain.
Bonjour Alexis.
Vous êtes au Cameroun à Yaoundé, on vous écoute.
Suite aux violences qui s'est produites en Centrafrique ces derniers jours, j'aimerais savoir comment peut-on expliquer la fragilité de la paix en Centrafrique malgré la présence de la MINUSCA ? Et est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que autorise leur mandat ?
Merci Ghislain. Alors on va en parler avec Pierre Pinto. Bonjour Pierre.
Bonjour Ghislain, bonjour Alexis.
Du service Afrique et vous suivez tout particulièrement les questions qui sont liées à la Centrafrique. Alors tout d'abord, qu'autorise le mandat de la MINUSCA ?
Oui, d'abord rappelons que la MINUSCA agit en vertu du fameux article 7 de la Charte des Nations Unies par lequel le Conseil de sécurité l'autorise à user de tous les moyens nécessaires pour son mandat dans la limite de ses moyens justement et de ses zones de déplacement, c'est-à-dire donc user de la force, hein, si nécessaire. Ce mandat, il est rappelé chaque année dans les résolutions du Conseil de sécurité. La dernière, la 23-10 de juillet dernier, distingue des tâches prioritaires urgentes, des tâches prioritaires et des tâches essentielles. Alors, dans les tâches prioritaires urgentes, en tête de liste, il y a la protection des civils, notamment des déplacés dans les zones sensibles. Ensuite, il y a la promotion et la protection des droits de l'homme, puis la sécurisation et l'acheminement de l'aide humanitaire, la protection des personnels et des biens des Nations Unies. Viennent ensuite donc les tâches prioritaires, avec d'abord l'appui du processus de réconciliation, de l'extension de l'autorité de l'État et du maintien de l'intégrité territoriale. Autre tâche prioritaire, la réforme du secteur de la sécurité, c'est-à-dire de l'armée et de la police centrafricaine. Et puis le DDR, désarmement, démobilisation, réinsertion. Précisons ici qu'il s'agit d'un processus politique, hein, décidé lors du forum de Bangui en mai 2015. Ce n'est pas question de désarmer par la force les groupes politico-militaires, mais bien par la négociation. Viennent ensuite l'assistance au renforcement de l'état de droit et de la lutte contre l'impunité, l'action en faveur de la justice, l'action contre les trafics de ressources naturelles, etc.
Alors on l'a compris, hein, la MINUSCA est présente en Centrafrique. Malgré tout, c'est ce que nous demande Ghislain. Pierre, comment expliquer que la paix soit aussi fragile ?
Alors c'est vrai, vous l'évoquiez en introduction, on assiste à une résurgence des violences depuis plusieurs semaines. Une douzaine de morts à Bangui, vous l'avez dit au début du mois, près de 40 la semaine dernière à Kagabandoro et encore ce week-end à Ngakobo près de Bambari. À chaque fois, ou presque, la MINUSCA fait l'objet de critiques acerbes pour son manque, réel ou supposé, de réactivité face à ces violences. On l'a vu encore il y a quelques jours, certains ministres, comme celui de l'Intérieur, Jean-Serge Bokassa, n'a pas hésité à accusé le contingent pakistanais présent à Kagabandoro même de connivence avec les groupes armés. Les victimes des violences dénoncent aussi la réaction trop tardive des casques bleus à Kagabandoro mercredi. Mais la MINUSCA se défend en rappelant que c'est elle déjà qui a repoussé les assaillants qui attaquaient le site de déplacés de la ville et que 12 de ces assaillants ont été tués, ce qui témoigne de la fermeté de la riposte. Certes, les casques bleus ne peuvent pas être partout, rappelle aussi parfois le patron de la mission, Parfait Onanga Anyanga. La Centrafrique, c'est un pays grand comme la France et la Belgique réunies. Il y a peu de routes, peu d'infrastructures, les déplacements sont compliqués et la MINUSCA compte 12 000 casques bleus, 10 000 militaires et 2 000 policiers répartis sur cet immense territoire. La refondation et la formation de l'armée et la police et de la gendarmerie centrafricaine prend du temps donc. C'est la MINUSCA qui mène ses missions pour l'instant.
Alors Pierre, la force française, les soldats français de Sangaris, eux, vont se retirer à la fin du mois d'octobre. Est-ce que ça va compliquer encore un peu plus la tâche de la MINUSCA ?
C'est vrai que la MINUSCA, il y a encore quelques mois, pouvait compter sur le concours de la force française Sangaris, réputée plus rapide, plus efficace, mieux équipée que la force onusienne, pourtant bien plus nombreuse. Mais la France a progressivement réduit ses effectifs militaires et doit mettre d'ailleurs un terme officiel à cette opération Sangaris à la fin de ce mois. À cela, il faut ajouter un contexte particulier. Le programme de DDR que j'évoquais tout à l'heure commence tout juste. Une réunion importante a eu lieu la semaine dernière. On peut se demander d'ailleurs si les groupes armés, dont la plupart disent attendre ce DDR depuis des mois et des mois, ne sont pas en fait en train de faire des démonstrations de force pour peser davantage dans les discussions. Et puis, il est clair qu'il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas intérêt à la paix. À la faveur de la crise qui a démarré en 2013, un certain nombre de chefs de guerre, quel que soit leur camp d'ailleurs, quelle que soit aussi leur importance dans la hiérarchie de leurs mouvements respectifs, ont mis la main sur des trafics ou sur l'exploitation de ressources naturelles. Ils n'ont aucun intérêt à la paix. Par conséquent, ils s'efforcent de maintenir un climat de violence latent avec des flambées épisodiques qui accentuent la méfiance entre communautés et qui laisse croire que la réconciliation est un défi quasi impossible.
Pierre Pinto, merci RFI. 10h17, on va s'intéresser maintenant au Mali, plus particulièrement à la situation dans le nord du Mali, puisqu'un nouveau groupe armé qui s'appelle le CJA, le Congrès pour la justice dans l'Azawad, a vu le jour ces derniers jours. Un congrès, le CJA, qui dit vouloir intégrer le processus d'Alger, sa mission, dit-il, serait d'assurer la protection des populations. Al-Mokhtar, bonjour.
Bonjour Alexis, bonjour les auditeurs.
Al-Mokhtar, vous êtes à Bondiagara, au Mali, et vous avez deux questions concernant ces groupes armés.
Voilà, c'est la multiplication de ces groupes armés-là va peut-elle favoriser le retour à la paix au contraire ou alimenter l'instabilité? La seconde question est de savoir la supposition assassinat de Agha Haoussa va-t-il mettre en péril le processus de paix au nord du Mali?
Donc l'assassinat de Cheikh Agha Haoussa qui mettrait en péril le processus de paix issu des accords d'Alger. Pour en parler, on va retrouver avec nous Anthony Fouchard, correspondant de RFI au Mali. Bonjour Anthony.
Bonjour.
Alors que répondez-vous à Al-Mokhtar?
Une réponse très simple, la multiplication des groupes armés ne peut pas favoriser le retour à la paix. Vous avez cité le CIGA, vous avez cité ce mouvement qui s'est créé dernièrement, mais on pourrait aussi citer le MILA, le mouvement islamo-laïque pour l'Azawad, ou le MSA, le mouvement pour le salut de l'Azawad, parce que depuis quelques semaines, on assiste en fait à une multiplication de ces groupes politico-militaires. Je disais donc que ça ne peut pas favoriser le retour à la paix pour une raison très simple. L'accord de paix d'Alger a été signé en 2015 entre trois entités très claires, la plateforme, la coordination des mouvements de l'Azawad, la CMA, et le gouvernement. Alors depuis quelque temps, chacun essaie de tirer son épingle du jeu en affirmant vouloir rejoindre le processus de paix. Mais finalement, ce ne sera pas possible, car l'ONU a été très clair, il n'y aura pas d'ajout a posteriori dans ce processus. Les trois groupes, les trois entités qui font partie du processus de paix sont connues et ont signé l'accord en 2015.
Alors Anthony, une question qui concerne la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad. Elle a accusé à mots couverts l'ONU d'être responsable de la mort de Cheikh Agha Haoussa. Qu'est-ce que vous en dites?
Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. La CMA a effectivement publié un communiqué qui dit à mots couverts « Tout porte à croire que le véhicule a été piégé dans l'enceinte de l'ONU ». Voilà la citation. Cher Aga Aoussa participait à une réunion à Kidal, dans l'enceinte du camp de la MINUSMA. Alors, l'ONU se montre beaucoup moins catégorique, même si ils ne veulent écarter aucune hypothèse. Mais le fin mot de l'histoire sera quand même très difficile à avoir, car aucune caméra de surveillance ne monitorait le parking où était garé le véhicule. Les circonstances de la mort de Cheikh Aga Aoussa sont encore très floues et vont sans doute le rester, car ce n'est pas le mandat de l'ONU d'enquêter là-dessus. Et les enquêteurs, par contre, de la CMA, donc qui gère la ville de Kidal, ne sont pas des enquêteurs professionnels dans ce domaine non plus. Et donc, pour l'instant, pour répondre à la question de l'auditeur, les retombées en termes de sécurité sont pour l'instant minimes. Hier, il y a eu une manifestation à Kidal qui a réuni une petite cinquantaine de personnes. Il y avait des banderoles avec la photo de Aga Aoussa, mais aussi des slogans hostiles à la force Barkhane, à la MINUSMA, qui ont fleuri un peu partout dans la ville, sur les murs, au carrefour. Et de son côté, le groupe djihadiste Al-Mourabitoun, dirigé par Mokhtar Belmokhtar, a nommément accusé la France d'être à l'origine de la mort de Cheikh Aga Aoussa, en laissant planer le spectre de représailles.
Merci Anthony Fouchard en direct de Bamako. Il est 10h21. N'oubliez pas de nous appeler, bien sûr, pour le débat tout à l'heure au standard. Je vous redonne le numéro 33 9 693 693 70. On vous attend donc pour le débat consacré au Burundi, au retrait voulu par le Burundi de la Cour pénale internationale. On s'intéresse maintenant à l'annonce des avocats de Salah Abdeslam la semaine dernière, annonce des avocats de ne plus défendre le seul survivant des commandos des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, Salah Abdeslam, qui est en prison. Alors, on devait avoir Abakar au téléphone. On n'arrive malheureusement pas à le joindre. J'accueille dans ce studio Franck Alexandre. Bonjour.
Bonjour, Alexis.
Franck Alexandre, vous suivez tout particulièrement les affaires liées à la justice, au terrorisme, à RFI. Alors, je vais me faire le porte-parole des questions d'Abakar. Pourquoi Sven Marie et Franck Berton ont-ils pris cette décision ?
Eh bien, d'abord, pourquoi ce silence de Salah Abdeslam ? La raison pour laquelle cet homme s'est muré dans le silence reste un mystère, Alexis. Personne ne sait pourquoi, pas même ses avocats, d'autant qu'après son arrestation, je vous le rappelle, Salah Abdeslam avait indiqué à Sven Marie, son avocat belge, qu'il comptait bien collaborer avec la justice française. Or, lors des deux derniers interrogatoires dans le bureau du juge d'instruction antiterroriste, eh bien, il n'a pas dit un mot, indiquant seulement qu'il resterait également muet pour le prochain rendez-vous prévu à la fin novembre. Alors, pourquoi ce revirement ? Franck Berton, son avocat français, indique qu'initialement, le courant passait bien entre eux. Puis, ces dernières semaines, il l'a senti décrocher. À ses yeux, c'est le système carcéral organisé autour de lui qui l'a conduit à cela. Notamment la vidéosurveillance de sa cellule, de jour comme de nuit.
24 heures sur 24,
voilà,
hein, c'est ça,
ça a été déclenché avec des caméras infrarouges. En l'épiant comme un rat dans sa cage, dit son avocat, on a transformé Abdeslam en bête sauvage. C'est comme un suicide, analyse-t-il encore. La conséquence de ce silence, eh bien, ces deux avocats, Franck Berton et Sven Marie, renoncent à défendre le seul survivant du commando terroriste du 13 novembre, car pour assurer la défense d'un homme, il faut être deux, l'avocat et l'accusé. Face à ce silence, le rôle de défenseur n'a plus de sens, disent-ils. Abdeslam a donc écrit au juge pour l'informer qu'il ne veut plus être représenté.
Voilà, la défense d'un avocat n'existe pas sans le client. Autre question que nous pose Abakar, est-ce que Abdeslam, Salah Abdeslam, peut ne pas avoir d'avocat pour le défendre ?
Eh bien oui, c'est tout à fait possible, Alexis.
C'est prévu par le droit.
Oui, le temps de l'instruction seulement. Car lorsque, dans quelques mois, Salah Abdeslam sera renvoyé devant une cour d'assises, il devra nécessairement être accompagné d'un avocat qui pourrait alors être un commis d'office.
Un commis d'office. Et Franck Alexandre, Salah Abdeslam pourrait-il peut-être ne jamais parler en fait d'ici à son procès, quand on connaîtra la date du procès.
C'est ce que dit Franck Berton. Oui, ceci dit, on n'est pas à l'abri d'un nouveau revirement.
D'un nouveau revirement et donc d'un changement d'avis de Salah Abdeslam. Merci Franck Alexandre du service France, tout particulièrement consacré aux affaires de justice à Radio France Internationale. RFI, 10h24. On va s'intéresser maintenant aux États-Unis et à la primaire à 3 semaines des élections présidentielles qui opposeront, vous le savez, Donald Trump à Hillary Clinton. Il y a déjà eu deux débats qui ont opposé le démocrate, la démocrate et le républicain. Il en reste un, ce sera dans deux jours, le 19 octobre. Et cette campagne est marquée notamment par les scandales qui minent la campagne de Donald Trump, des scandales divers et variés, notamment concernant des agressions sexuelles, des accusations d'agressions sexuelles, une vidéo qui est ressortie récemment datant de 2005. Pour en parler, on va retrouver Corentin Célin, puisqu'on n'arrive pas à voir notre auditeur qui se trouve à Pointe-Noire d'Elvie. Donc, Corentin Célin, professeur d'histoire spécialiste des États-Unis. Bonjour.
Bonjour, Alexis.
Alors, je vais là aussi reprendre dans ma voix la question que nous posait d'Elvie. Est-ce qu'une défaite de Donald Trump le 8 novembre pourrait nuire globalement au Parti républicain et notamment à la majorité républicaine au Sénat?
Oui, absolument. C'est une hypothèse qui n'est pas à écarter. La candidature de Trump est devenue tellement controversée après les scandales que vous évoquiez que beaucoup de sénateurs, 13 actuellement, ont décidé de ne plus voter pour lui. 13 sénateurs républicains sur 54 qui ont décidé de ne plus voter pour lui. Et ce choix, surtout pour les sénateurs qui cherchent une réélection cette année, est fait pour ne pas être associé à un candidat considéré comme toxique auprès d'électorats modérés décisifs, comme les femmes diplômées d'université, par exemple. Et en effet, la science politique américaine a démontré depuis longtemps un effet de cocktail sur le ticket électoral. C'est-à-dire qu'un bon candidat présidentiel entraîne des voix supplémentaires pour les candidats au Sénat, et inversement, un mauvais candidat présidentiel, comme semble l'être Trump en ce moment, peut faire perdre des voix aux sénateurs voulant être réélus.
Et alors, Corentin Célin, ça veut dire que d'ores et déjà, le Parti républicain acterait une défaite, parce que au-delà des sénateurs, il y a également des ténors. On va en citer quelques-uns. Au-delà de Paul Ryan, le président de la Chambre des représentants, on a aussi John McCain qui retire son soutien, Condoleezza Rice, l'ex-secrétaire d'État, plusieurs femmes, vous nous l'avez dit. Colin Powell ne porte pas Donald Trump dans son cœur. Ça veut dire donc que les républicains, eux, se focaliseraient directement sur le Congrès, sur le Sénat, d'ores et déjà.
Oui, en effet, on a remarqué cette tendance ces dernières semaines, en particulier chez le leader de la Chambre que vous évoquiez, Paul Ryan, qui a annoncé qu'il ne ferait plus campagne pour Donald Trump, mais qu'il ferait campagne pour garder la majorité à la Chambre. Et le Parti républicain lui-même a quasiment coupé toutes ses campagnes de publicité pour Trump, pour focaliser son argent et ses dépenses publicitaires sur les candidats au Congrès à la majorité sénatoriale, avec un argument: si Trump perd, garder une majorité républicaine au Sénat et à la Chambre sera le seul contre-pouvoir contre une présidente Clinton.
Et à contrario, Corentin Célin, les démocrates, eux, se prennent, avec vu l'avance d'Hillary Clinton dans les sondages face à Donald Trump, ils se prennent à rêver d'un grand chelem électoral, conserver la Maison-Blanche et puis gagner le Congrès.
Oui, tout à fait. Alors, autant pour le Sénat, retrouver la majorité était envisageable dès le départ pour les démocrates, puisque la carte électorale de cette année leur est favorable, la Chambre paraissait totalement hors de portée. Et en effet, grâce aux gains d'Hillary Clinton, en particulier parmi l'électorat féminin des banlieues résidentielles, peut-être que les démocrates pourraient retrouver une majorité à la Chambre. Cependant, attention, 4% de républicains seulement indiquent dans un sondage Pew paru samedi qu'ils voteraient pour un parti différent entre la présidentielle et les élections au Congrès. Il y a une certaine loyauté de parti, donc ce sera quand même difficile pour les démocrates, pour la Chambre des représentants.
Alors rapidement, Corentin Célin, la deuxième question que nous pose Delvis, c'est comment expliquer, malgré les polémiques, le soutien indéfectible de la base électorale de Donald Trump?
Alors, en fait, malgré les scandales répétés, Trump garde le soutien de l'électorat blanc non diplômé d'université, ce que l'on appelle la working class, qui trouve en lui un porte-voix. Cet électorat est très en colère contre un gouvernement, des élites politiques qu'il ne juge plus représentatifs. Et Trump donne des mots à cette colère. Et hier, dans un sondage Washington Post, où Clinton menait de 4 points dans l'électorat général, eh bien Trump menait de 30 points parmi cet électorat blanc non diplômé qui est indéfectible pour Donald Trump.
Merci Corentin Célin. Je rappelle que vous êtes professeur en classe préparatoire spécialiste des États-Unis. Restez à l'écoute de RFI. Dans 10 minutes, c'est notre débat. Vous pouvez nous joindre au 33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.